Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h à la radio Djamana de Tombouctou, même heure à la radio Bouctou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Au sommaire de ce journal, la MINUSMA a officiellement clos ce lundi sa présence au Mali. La cérémonie était pleine d'émotions pour les responsables de la mission. Ils se félicitent toutefois des résultats malgré les difficultés. Les sanctions individuelles contre les dirigeants maliens ont été levées par la CEDEAO, mais la création de l'Alliance des États du Sahel a été rejetée par l'organisation. C'est parti depuis ce matin pour la 8e édition du Festival Vivre Ensemble à Tombouctou, un événement prônant la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Je suis Juliette Koulibaly à la présentation, Philly Dambélé est à la mise en onde. La MINUSMA dit adieu au Mali. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a officiellement clos sa présence dans le pays. Elle comptait plus de 15 000 hommes, dont des personnels civils. La cérémonie de clôture s'est déroulée au quartier général de la MINUSMA en présence de certaines autorités maliennes. Moussa Malé Sissoko était présent.
Le drapeau des Nations Unies descendu, une gerbe de fleurs déposée en mémoire des 310 casques bleus morts au Mali. Un livre récapitulatif des 10 ans de la MINUSMA est remis aux autorités maliennes. L'instant est solennel et plein d'émotions pour les travailleurs de la mission. Selon le chef de la MINUSMA, à ce jour, plus de 2/3 des effectifs sont retournés dans leur pays respectif.
Dans un peu plus de 2 semaines, la MINUSMA fermera définitivement ses portes. Ce processus a vu la clôture. Depuis début août, de 10 base sur les 13. Dans les jours à venir, nous rétrocéderons aux autorités civiles maliennes. Certaines parties des emprises restantes de la MINUSMA qui seront alors converties en sites de liquidation.
Le patron de la MINUSMA a rappelé les actions menées par la mission pendant cette décennie. La mission a donné le meilleur d'elle-même, se félicite le commandant adjoint de la force de la MINUSMA, le général Mamadou Gaye.
Il y a l'environnement sécuritaire qui a été difficile. Le territoire est immense. On avait besoin énormément de moyens aériens, mais également d'autres moyens de capacité pour faire face à la mission. C'est une mission complexe, difficile, mais nous avons pu, grâce à l'apport des uns et des autres, donner le meilleur de nous-mêmes.
Après le retrait total de la mission prévu pour le 31 décembre, va débuter la phase de liquidation le 1er janvier 2024. Cette dernière étape devrait s'étendre sur 18 mois, mais ce délai pourrait être écourté selon la MINUSMA.
Certaines populations estiment que la présence de la MINUSMA a été un échec au Mali. Cependant, elle demande que des dispositions soient prises pour les travailleurs mis au chômage du fait du retrait de la MINUSMA. Écoutons ces réactions recueillies à Bamako, Mopti et Ansongo.
Le ministre a beaucoup fait. Quelqu'un qui a réduit dans le chômage, il a beaucoup fait.
On n'a pas eu de satisfaction, car le ministre a failli à ses missions, à savoir combattre les groupes armés, amener la paix et restaurer la cohésion entre les populations.
Mais quand même, beaucoup de gens qui travaillent à la MINUSMA ont perdu leur emploi. Cela est un inconvénient.
Beaucoup ont pris des jeunes partout dans la région de Gao et la région de Tombouctou. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier.
Pour moi, quand même, la présence de la MINUSMA au Mali, ça a été un échec. Car ils n'ont pas pu respecter ce que l'ONU les a demandé.
C'est un manque à gagner pour nous, les commerçants.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Nous partons dans la région de Koutiala, plus précisément dans le cercle de Yoroso, où les fermetures des écoles continuent. Toutes les écoles de la commune de Koumbia ont été fermées le vendredi 8 décembre 2023 par des hommes armés non identifiés. Cette fermeture intervient quelques semaines seulement après celle d'une dizaine d'écoles dans la commune de Boura. Je vous l'annonçais dans les titres, les sanctions individuelles contre les dirigeants maliens ont été levées par les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était lors de son 64e Extreme Sommet ordinaire tenu ce dimanche à Abuja, au Nigeria. Toutefois, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont rejeté la création de l'Alliance des États du Sahel. Direction Dubaï, la sortie des énergies fossiles reste un des plus grands enjeux de la COP28 en cours. Toutefois, ça bloque toujours au niveau des négociations. Les pays développés ne veulent pas faire d'efforts pour respecter leurs engagements et ceux en voie de développement ont besoin d'un financement pour s'adapter. Reportage de notre envoyé spécial à la COP28, Mohamedou Touré.
Les négociations se poursuivent à Dubaï, mais un des blocages se situe au niveau de la sortie des énergies fossiles. Sani Ayouba, président des jeunes volontaires pour l'environnement au Niger, nous explique.
Le changement climatique chez nous, par exemple au Sahel, c'est un défi quotidien, que ce soit par rapport à la température, par rapport aux catastrophes. Et les pays qui sont responsables historiquement du changement climatique, les pays industrialisés, ne veulent pas faire des efforts supplémentaires pour réduire ou bien même pour arrêter d'ici à l'horizon 2030-2050 tel que le prévoit certains textes ou certaines décisions de ces négociations.
Pourtant, il est également demandé aux pays en voie de développement, notamment ceux du Sahel et de l'Afrique centrale, de se pencher beaucoup plus sur les énergies vertes. Une situation que Mme Zainabou Segda, présidente de Women Environmental Programme du Burkina Faso, trouve paradoxale.
Si on arrête d'utiliser aujourd'hui le fossile, on ne pourra aller nulle part parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des équipements qui nous permettent d'avoir de l'énergie propre pour avoir le net zéro qu'ils demandent.
Il faut souligner que 67% de la population burkinabée qui vit en milieu rural n'a pas accès à l'énergie de sources officielles. Au Mali, les énergies renouvelables ne représentent que 10% des productions actuelles, regrette également Mme Aminata Konaté, directrice nationale de l'énergie.
Donc, dans la production même de la société énergie du Mali, nous sommes à plus de 53% de thermique, ce qui cause trop de problèmes. Et le reste, c'est l'importation. On n'a que 10% de renouvelables sur notre mix énergétique. Mais on veut aller à 100% d'ici 2030.
À Dubaï, Mohamedou Touré pour Studio Tamani.
C'est parti pour la 8e édition du Festival Vivre Ensemble de Tombouctou. Au menu de l'événement, de prestations artistiques, de foires artisanales, des conférences, débats, plus de 2000 festivaliers venant des horizons différents prennent part à ce rendez-vous culturel. Selon Aïcha Aïdara, présidente adjointe du Festival Vivre Ensemble, des mesures sont prises pour assurer la sécurité des festivaliers. Elle est au micro de notre envoyé spécial à Tombouctou, Oumar Waïgalo.
Nous estimons atteindre au moins 2600 jusqu'à 2700 personnes. Ces festivaliers sont surtout de la commune urbaine de Tombouctou. Et il y a aussi les cercles, il y a les autres communes de Tombouctou. Et nous avons également des gens qui viennent de Bamako et des gens qui viennent de l'extérieur également. Pour ne pas citer des pays, il y aura beaucoup de festivaliers qui viendront de l'extérieur. À Tombouctou, ici, nous avons toujours tenu le festival dans l'insécurité ici, mais Dieu merci, et avec nos forces FAMA, les équipes qui les accompagnent, on arrive toujours à faire le festival dans la paix, la quiétude.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
L'apparence porteuse de faveur ou de défaveur dans certains endroits, c'est le sujet de notre chronique Zoom sur présentée par Lale Tangara.
L'habit ne fait pas le moine, a-t-on coutume de dire, mais de nos jours, l'apparence d'une personne peut lui faciliter ou lui compliquer les choses dans certaines situations. Dans les lieux publics, la première chose à laquelle les gens font attention, c'est le paraître. Si ta mise est soignée, tu attires toute l'attention. Et cela t'apporte même des faveurs parfois. Oumi en a appris à ses deux pans. Partie pour faire des courses dans un supermarché du quartier, elle a failli ne pas avoir l'accès au magasin. Et pour cause, son habillement n'était pas convenable aux yeux du vigile à l'entrée. Pendant qu'elle attendait, un jeune élégant de la tête aux pieds fait son entrée dans le même magasin. Ébahi par son accoutrement, les vigiles l'ont laissé passer malgré une longue file qui attendait. À sa sortie, ses désormais nouveaux amis se précipitent même pour lui souhaiter une bonne journée. C'est le même constat lorsque vous êtes propriétaire d'une bolide ou que vous êtes à moto ou à pied. Quelqu'un ne disait-il pas que de nos jours, il n'y a pas de personnes de bonne ascendance, mais plutôt des personnes de bonne apparence. apparence.
C'est sur cette chronique que prend fin ce journal présenté par Juliette Koulibaly. Philippe Dambélé était à la technique. Nous recevons à présent Mariam Koulibaly depuis Tombouctou pour nous introduire le grand dialogue. Alors Mariam, de quoi parle l'émission de ce soir?
Le vivre ensemble se matérialise à Tombouctou, le temps d'un festival. C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Et je vous rappelle que le débat se tient actuellement à Tombouctou dans le cadre de la 8e édition du festival du vivre ensemble. Et nos invités sont Aïcha Haïdara, présidente adjointe du festival du vivre ensemble, Fadi Walet Mohamedine, présidente de l'association des femmes artisanes pour la paix, et Alpha Omar Cissé, directeur du musée municipal de Tombouctou. Merci.
Merci et bon débat. Vous avez la possibilité d'écouter ce journal en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme M. Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Droits de l'homme, la situation toujours pas fameuse selon la CNDH. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme commémorée le 10 décembre 2023, le magazine Gouvernance et Citoyenneté s'est penché sur la situation des droits de l'homme au Mali. Et c'est une réalisation de Lale Tangara avec le concours de nos correspondants locaux.
Les conflits et les violences opérées par les présumés terroristes ont favorisé la dégradation des droits de l'homme au Mali. Une situation que déplore la Commission nationale des droits de l'homme au Mali, CNDH. Son président, Aguibou Boiré, affirme qu'elle est préoccupante malgré les efforts consentis par les autorités.
Nous continuons d'enregistrer des violations et abus souvent graves des droits de l'homme, des atteintes au droit à la vie, à l'intégrité physique, avec leur corollaire de nombreuses personnes déplacées internes, des réfugiés également, l'attaque du bateau Tombouctou, des assassinats qui continuent au centre du pays. Donc c'est dire que la situation n'est toujours pas fameuse.
L'esclavage par ascendance fait partie des atteintes aux droits humains énumérées par les défenseurs des droits humains. Pourtant, les législations en la matière sont claires. Tous les hommes naissent libres et égaux. Mais cette pratique persiste toujours dans certaines localités du Mali. Des habitants de Kayi et d'Ansongo interpellent les autorités à durcir les mesures de répression contre le phénomène.
Le phénomène de l'esclavagisme, c'est un désarroi parce que aujourd'hui, ça fait mal au cœur lorsqu'on entend quelqu'un dire encore un esclave.
C'est un problème qui nous fatigue, qui nous amène même à créer souvent des conflits qui ne doivent pas exister.
Qu'ils mettent en œuvre toutes les dispositions pour mettre fin à l'esclavage. Qu'on mette plus l'accent sur le cousinage à plaisanterie. Sinon, traiter quelqu'un d'esclave jusqu'à l'assassiner, c'est trop.
Gambana, qui signifie « nous sommes tous égaux » en soninké, poursuit sa lutte contre l'esclavage dans la région de Kayi. Mamadou Konaté, membre de cette association, note une amélioration de la situation globale des droits de l'homme dans la région, même s'il reconnaît que certains requièrent plus d'attention.
Par rapport à la pratique de l'esclavage, il y a de l'amélioration au niveau de nos droits, car les autorités ont appliqué les lois. Malgré cela, ça persiste encore dans certaines localités de Nyuru, car les gens qu'on appelle esclaves, leurs enfants n'étudient plus dans les mêmes classes que les autres. Ainsi, ils ont construit leur propre école. Si les choses entrent dans l'ordre, nous souhaitons le retour de nos parents qui ont fui ces violences.
L'Union malienne des aveugles humains Mava, de son côté, plaide principalement pour une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. Hadji Bari, président de l'UMAV.
Dans les services dédiés à la santé, à présent, il y a des insuffisances qu'il faudra améliorer, notamment quand une personne malentendante doit se présenter. La communication, la langue est une barrière de communication parce qu'ils communiquent avec les filles. Maintenant, les tables d'accouchement aussi ne sont pas tout à fait adaptées à toutes les personnes handicapées. C'est là qu'il y a des efforts qui sont bien sentibles. Par exemple, il y a la représentativité des personnes handicapées qui est effective au niveau du Conseil national des transitions. On espère qu'au-delà de la transition, ça va continuer.
En outre, la Commission nationale des droits de l'homme regrette le nombre pléthorique des détenus dans les centres d'incarcération au Mali. En décembre 2022, la maison d'arrêt de Bamako comptait 3545 détenus pour 400 places. Pour atténuer cette situation, Michel Boiré préconise de doter la justice en moyens adéquats pour permettre celle-ci de faire correctement son travail.